Merci de nous suivre sur Radio Orient. Il est 12h, le journal Inès Gilles. Au sommaire de cette édition, le président algérien Tebboune veut faire appliquer la peine de mort contre les pyromanes après des feux meurtriers dans l'est et le nord du pays. Les bombardements reprennent entre Washington et Téhéran. Les États-Unis ont frappé l'Iran pour la première fois depuis un mois, entraînant une riposte iranienne. La rentrée du gouvernement marquée par la mission presque impossible du budget 2027, Sébastien Lecornu réunit ses ministres ce lundi. Bonjour, un bilan toujours incertain dans les feux en Algérie. Selon les chiffres officiels communiqués jusqu'ici, au moins 12 personnes sont mortes en lien avec les violents feux de forêt dans le nord et dans l'est du pays, près de Béjaïa, Gilel et Tizi Ouzou. Mais des sources locales craignent que le nombre de victimes ne soit beaucoup plus élevé. Dans ce contexte, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a annoncé dimanche vouloir rétablir l'application de la peine de mort contre les pyromanes. Alger observe un moratoire sur la peine de mort depuis 1993, mais le président Tebboune a ordonné une modification du code pénal avant le 15 septembre. L'Algérie a décrété un deuil officiel de 3 jours et l'annulation de toutes les festivités culturelles et compétitions sportives après les incendies. Et face à ces feux meurtriers, le président français Emmanuel Macron a apporté ce lundi le soutien de la France à l'Algérie. Les relations franco-algériennes ont traversé une grave crise diplomatique ces dernières années et demeurent tendues malgré un récent réchauffement sous l'impulsion d'Emmanuel Macron et de son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune. Nous l'avons évoqué dans les titres, les violences sont de retour au Moyen-Orient. L'Iran a frappé des cibles militaires américaines en Jordanie et aux Émirats arabes unis. Une riposte à des bombardements américains. Dimanche, l'armée américaine avait frappé l'île de Lark en territoire iranien. Des frappes qui ont fait 2 morts et 2 blessés selon Téhéran. Ces attaques américaines ont été lancées après que des forces des gardiens de la révolution islamique ont été observées en train de se préparer à lancer des roquettes chargées de mines marines à Hormuz, a indiqué dans un communiqué Tim Hawkins, le porte-parole du commandement militaire pour le Moyen-Orient. C'est le premier échange de frappes après un mois d'accalmie dans la région. Et les États de la région sont en alerte. Les Émirats arabes unis ont affirmé lundi avoir réagi à un drone provenant d'Iran, détecté au-dessus de leurs eaux territoriales. L'Iran affirme avoir visé une base américaine, Abu Dhabi dément, qualifiant l'attaque iranienne d'escalade dangereuse. Alors que le conflit est entré dans son 7e mois et que les efforts diplomatiques pour y mettre fin patinent, ces attaques tranchent avec les déclarations récentes de l'administration Trump qui disait vouloir privilégier la pression économique contre Téhéran. Après l'annonce de ces nouvelles frappes, les cours du pétrole sont repartis en hausse. Le baril de Brent, référence internationale, dépasse aujourd'hui le seuil symbolique des 90 dollars. Des armes qui frappent, d'autres qui se vendent. Israël a signé avec la Grèce un contrat d'exportation d'armes de 3 milliards d'euros. D'après cet accord, l'un des plus importants de l'histoire du pays, selon le ministère israélien de la Défense, Israël construira pour la Grèce un dispositif complet de défense aérienne baptisé Bouclier d'Achille. Une vente qui intervient alors que les tensions entre Israël et la Turquie, un pays aux relations historiquement difficiles avec la Grèce, se sont fortement accrues ces dernières semaines en pleine recomposition des alliances dans la région. La Turquie, justement, accueille aujourd'hui à Istanbul la première réunion ministérielle des signataires du pacte de défense de la Mecque, un pacte qui réunit la Turquie, le Pakistan et l'Arabie Saoudite et qui signe une transformation dans les alliances régionales. Dans le reste de l'actualité internationale, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a exclu lundi toute responsabilité des autorités marocaines dans l'afflux soudain de migrants arrivés il y a 1 mois dans l'enclave espagnole de Ceuta. Fin juillet, plusieurs dizaines de milliers de personnes avaient tenté de franchir la frontière en quelques heures lors d'une traversée meurtrière pour atteindre l'enclave espagnole. La grande majorité des migrants sont repartis vers le Maroc. En France, le Premier ministre Sébastien Lecornu réunit aujourd'hui son gouvernement au grand complet pour un séminaire tourné vers la préparation d'un budget 2027 aux airs de mission impossible entre économie en berne, nouvelles dépenses déjà arbitrées et menaces de censure à 8 mois de l'élection présidentielle. L'absence de budget 2027 coûterait 15 milliards d'euros au pays, selon le ministère de l'Économie et des Finances, et le déficit atteindrait 5,9%. On écoute Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement. Elle était l'invitée de BFM TV ce matin.
Moi, je vous propose d'abord de repartir du contexte et d'un rapport de l'Inspection générale des Finances qui dit une chose simple, sans budget, c'est 15 milliards d'euros de coûts pour le pays et un déficit qui pourrait atteindre 5,9%. Le Premier ministre a dit une chose très juste chez vos confrères du Parisien dimanche. Il a dit les petits calculs politiques s'arrêtent là où commence le risque financier. Je trouve cette phrase, encore une fois, particulièrement juste et particulièrement cohérente.
Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement. Et pour éviter la montée du déficit, Sébastien Lecornu envisage de freiner certaines dépenses sociales avec une réforme des arrêts maladie, le remboursement de certains médicaments et surtout une désindexation des retraites en dessous de l'inflation, à l'exception des petites pensions. Plus de 800 000 enseignants ont repris le chemin de l'école ce matin. Ce sera demain mardi pour les élèves. Caroline Chevet, secrétaire générale de la FSU, professeure de philosophie, nous dit comment elle appréhende cette rentrée. Elle demande notamment une augmentation des salaires des enseignants.
Le jour de l'après-rentrée, on est surtout soucieux que tout soit bien prêt pour accueillir les élèves dès demain. Mais c'est vrai que c'est une rentrée particulière, c'est la dernière rentrée sous la présidence d'Emmanuel Macron et pour nous c'est aussi l'occasion de faire un bilan des 10 dernières années dans le système éducatif, 10 dernières années qui laissent un système éducatif assez épuisé, je dirais, fragilisé et des enseignants qui sont souvent en colère des conditions qui leur sont faites et je pense en particulier au sujet des salaires.
Les salaires, hein, sachant que le salaire moyen d'un professeur, eh bien, cela va de 2340 euros à 4080 euros net par mois. C'est une moyenne et c'est une note d'information publiée par le ministère de l'Éducation nationale. Il indique qu'en moyenne, un enseignant français en 2024 percevait 3090 euros net par mois.
Oui, alors cette note est effectivement parue et il paraît la même note chaque année. Cette moyenne de 3090 euros, elle ne veut à peu près rien dire parce que justement c'est une moyenne et que ça ne tient pas compte de la démographie des enseignants et des enseignantes, c'est-à-dire qu'évidemment, au fur et à mesure de la carrière, la rémunération augmente et c'est une population qui est une population vieillissante. Ça fait d'ailleurs partie des problèmes qui sont devant nous en lien avec la crise d'attractivité, la crise de recrutement des enseignants, c'est que dans les années qui viennent, il va falloir recruter beaucoup d'enseignants pour faire face au départ à la retraite.
Caroline Chevet, secrétaire générale de la FSU, elle sera l'invitée de Grand Angle ce soir à 18h. À la veille de la rentrée pour les élèves, coup de projecteur sur l'inclusion par le sport. La ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur chargée de la citoyenneté, Marie-Pierre Védrenne, revient au micro de Radio Orient sur les bienfaits de la pratique sportive, notamment pour la valorisation du vivre ensemble.
Pour moi, le sport, c'est finalement, à travers lui, ouvrir le champ des possibles. On ne s'imagine pas, par exemple, quand on va commencer à courir, être capable de faire progressivement une quinzaine de kilomètres et diminuer son temps pour le faire. C'est tout ça. Et ça démontre aussi qu'on ne va pas tous devenir, si on prend du foot, des Kylian Mbappé. On ne va pas tous devenir, si on prend d'autres sports, des personnes performeurs, des grands athlètes, mais on va apprendre sur soi et ça va ouvrir beaucoup de choses. Et le sport aussi, c'est se croiser les uns et les autres.
Voilà, et ça c'est vraiment un élément fondamental, rencontrer l'autre qui parfois peut être différent, peut venir de différentes cultures, et c'est aussi en cela peut-être que le sport peut apporter en matière de citoyenneté quelque chose que d'autres institutions ne transmettent pas toujours.
Totalement, on le voit bien au moment de grands événements, on se retrouve aussi derrière le drapeau national. Alors dernièrement, ça a été la Coupe du Monde, ou ça a été les championnats d'Europe de natation. Il y a une fierté, regardez les Jeux Olympiques, comment ça a transporté notre pays. Mais il y a ces grands temps, puis il y a le quotidien. Quand vous êtes dans un club de foot, là ça va être la rentrée justement sportive, associative, il y a avoir plein de nos concitoyens qui vont s'inscrire dans des clubs très très différents, et qui vont trouver effectivement des partenaires qu'ils n'auraient peut-être pas soupçonnés, qui viennent de territoires différents, qui ont des métiers différents, qui ont des histoires différentes. Et donc, on se retrouve ensemble à ce moment-là. Donc, je crois que c'est un élément, effectivement, d'inclusion, de faire nation, qui est absolument essentiel de développer.
Et est-ce que l'accès au sport est suffisamment égalitaire aujourd'hui, notamment pour les jeunes gens dans les quartiers populaires? Vous êtes aujourd'hui à Garges-lès-Gonesse, dans le Val d'Oise.
Mais vous savez, justement, quand j'étais au club de boxe tout à l'heure, j'ai rencontré des jeunes qui font effectivement de la boxe, évidemment, dans un club, mais certains faisaient de la natation, certains faisaient du rugby, un autre du football américain. D'ailleurs, le maire de Garges s'est interrogé en disant: on n'en a pas ça dans notre ville. Donc ça ouvre le champ des possibles. Donc je crois qu'il faut continuer, bien évidemment, à travailler sur les questions d'accessibilité. On le sait bien, il y a des sports, on va dire le ticket d'entrée, que ce soit en matière d'équipement, que ce soit beaucoup de choses, peut être plus cher. Mais je pense qu'aussi, souvent, on se met nos propres barrières. Parfois, on va spontanément se tourner vers le foot, majoritairement. Mais il y a d'autres sports collectifs, le hand, le basket, beaucoup de choses parfois qu'on ne pense pas soi-même. Et alors que dans de très nombreuses villes, ici je l'ai bien mesuré à Garges, le tissu associatif, le tissu sportif qui est proposé est très très large.
La ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur chargée de la citoyenneté, Marie-Pierre Védrenne. Elle sera l'invitée de Pluriel ce soir à 19h, émission présentée par François-Xavier de Calonne. Et puis, plus de 200 enquêtes pénales sont en cours pour des soupçons de violence dans le scolaire et le périscolaire à Paris, selon le parquet de Paris. Alors que s'ouvre le procès d'un animateur d'une école du 15e arrondissement accusé d'agression sexuelle sur plusieurs enfants. Au total, les dossiers concernent 184 écoles parisiennes avec parfois plusieurs enquêtes dans un même établissement. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur Radio Orient.